Chapitre 34. Lavage de voiture. Maintenant que les dés étaient jetés, toute l'atmosphère d'univers changeait. Plus de discussions, tout le monde collaborait. Personne ne dormit beaucoup pendant les deux rotations suivantes de la comète, 100 heures de temps terrestre. La première journée de Halley fut consacrée à un prélèvement encore assez prudent d'Old Faithful, mais quand le geyser cessa de jaillir, vers le soir, la technique était complètement maîtrisée. Plus de 1000 tonnes d'eau avaient été embarquées. La prochaine période de jour suffirait amplement pour le reste. Heywood Floyd évitait le capitaine pour ne pas tenter le diable. D'ailleurs, Smith avait 1000 choses à faire, parmi lesquelles n'entrait pas cependant le calcul de la nouvelle orbite. Celle-ci avait été vérifiée et revérifiée sur la Terre. L'idée était brillante. Cela ne faisait plus de doute. Et l'économie était encore plus grande que ne l'avait supposé Jolson. En refaisant le plein sur Halley, Univers éliminait les deux principaux changements d'orbite nécessaires pour le retour sur Terre. Il pourrait maintenant foncer tout droit vers son but, sous une accélération maximale, et gagner ainsi plusieurs semaines. En dépit des risques possibles, tout le monde applaudissait à la manœuvre. Enfin, presque tout le monde. Sur Terre, le mouvement « Touche pas à Halley », précipitamment créé, s'indignait. Ses membres, 236 seulement, mais ils s'y entendaient pour faire leur publicité, estimaient que le pillage d'un corps céleste ne se justifiait pas, même pour sauver des vies humaines. Ils refusaient de se laisser amadouer, même quand on faisait observer qu'Univers ne faisait qu'emprunter une substance que la comète aurait perdue n'importe comment. C'était, disaient-ils, une question de principe. Leur communiqué rageur provoquait à bord d'Univers une détente amusée dont on avait grand besoin. Toujours prudent, le capitaine Smith procéda aux premiers essais à puissance réduite avec un des propulseurs de contrôle d'altitude. S'il tombait en panne, on pourrait s'en passer. Il n'y eut pas d'anomalie. Le moteur se comporta exactement comme s'il fonctionnait avec la meilleure eau distillée provenant des mines lunaires. Il fit ensuite un essai avec le principal moteur central, le numéro 1. Si celui-là était endommagé, il n'y aurait aucune perte de maniabilité, seulement de poussée totale. Le vaisseau demeurerait entièrement contrôlable, mais l'accélération de pointe serait diminuée de 20%. Encore une fois, il n'y eut aucun problème. Même les plus sceptiques recommencèrent à se montrer polis avec Heywood Floyd, et le lieutenant Jolson cessa d'être un paria. Le décollage fut fixé à la fin de l'après-midi, juste avant qu'Old Faithful cesse de jaillir. Serait-il encore là pour accueillir les prochains visiteurs dans 76 ans, se demandait Floyd. Peut-être, il y avait déjà des traces de son existence sur les vieilles photos de 1910. Il n'y eut pas de compte à rebours spectaculaire, comme autrefois au Cap Canaveral. Une fois certain que tout était en ordre, le capitaine Smith appliqua une simple poussée de 5 tonnes au numéro 1 et Univers s'éleva lentement du cœur de la comète. L'accélération était modeste, mais le feu d'artifice fut impressionnant et, pour la plupart des observateurs, totalement inattendu. Jusqu'à présent, les jets des moteurs principaux avaient été pratiquement invisibles, uniquement formés d'oxygène et d'hydrogène hautement ionisés. Même quand les gaz s'étaient suffisamment refroidis pour se combiner chimiquement à des centaines de kilomètres, la réaction n'avait dégagé aucune lumière dans le spectre visible. Mais à présent, Univers s'éloignait de Halley sur une colonne incandescente trop lumineuse pour l'œil. Cela ressemblait à un pilier de flamme. Quand cette flamme touchait le sol, elle faisait exploser la roche en fragments épars. En quittant Halley, Univers y gravait sa signature comme un graffiti cosmique. La plupart des passagers, accoutumés à s'élever dans l'espace sans traces visibles, furent considérablement surpris. Floyd attendit l'inévitable explication. Un de ses petits plaisirs était de surprendre Willis en flagrant délit d'erreur scientifique, mais il en avait très rarement l'occasion. Et même dans ces cas-là, Willis avait toujours une excuse valable. « Du carbone, » dit-il, « du carbone incandescent, exactement comme la flamme d'une bougie, mais légèrement plus brûlant. »« Légèrement, » murmura Floyd. « Nous ne brûlons plus, si vous me passez l'expression. » Et Floyd laissa passer. « De l'eau pure. Elle a été soigneusement filtrée, d'accord. Mais elle contient beaucoup de carbone colloïdal. ainsi que des éléments qui ne pourraient être éliminés que par la distillation.
Très impressionnant, mais je suis un peu inquiet,
dit Greenberg.
Toute cette radiation, est-ce que ça ne va pas détériorer les moteurs et gravement surchauffer le vaisseau ?
C'était une très bonne question qui avait causé quelque anxiété. Floyd attendit que Willis y réponde, mais l'astucieux savant lui renvoya la balle.
« Je préfère laisser au professeur Floyd le soin de vous donner toutes les explications. C'était son idée, après tout. »«
Celle de Johnson, s'il vous plaît. »«
Mais c'est juste. En réalité, il n'y a pas de problème. Quand nous sommes en pleine poussée, tout ce feu d'artifice est à 1000 kilomètres derrière nous. Nous n'avons pas à nous en soucier. »
Le vaisseau planait à présent à environ 2000 mètres au-dessus du noyau. Sans l'éblouissement des vapeurs d'échappement, on aurait pu admirer la face ensoleillée de l'astre minuscule déployé au-dessous. À cette altitude, ou distance, la colonne d'Old Faithful s'élargissait légèrement. Elle ressemblait, pensa subitement Floyd, au grand jet d'eau de Genève. Il ne l'avait pas vu depuis 50 ans et se demanda s'il marchait encore là-bas. Le capitaine Smith vérifiait les commandes et faisait lentement pivoter le vaisseau sur les axes Y et Z. Tout paraissait fonctionner à la perfection.
« Temps zéro de la mission dans 10 minutes »,
annonça-t-il.
« Point 0,1G pendant 50 heures, 0,2G jusqu'à la manœuvre de retournement dans 150 heures. »
Il prit un temps pour laisser à ses auditeurs le temps d'absorber l'information. Jamais aucun vaisseau n'avait tenté de maintenir une accélération aussi élevée pendant si longtemps. Si Univers n'était pas capable de freiner correctement, il passerait à la postérité, dans les livres d'histoire, comme le premier missile interstellaire habité. Le vaisseau s'inclinait maintenant vers l'horizontale, si un tel mot pouvait signifier quelque chose dans un environnement de quasi-totale apesanteur, et se dirigeait directement vers la blanche colonne de brume et de cristaux de glace jaillissant toujours de la comète. Univers commença à s'en approcher.
« Mais qu'est-ce qu'il fabrique ?»
demanda anxieusement Mihailovitch. Le capitaine, s'attendant évidemment à cette question, reprit la parole. Il avait complètement retrouvé sa bonne humeur et il y avait même de l'amusement dans sa voix.
« Plus qu'une petite corvée avant de partir. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais.
Et le second est d'accord avec moi, n'est-ce pas ?»«
Oui, capitaine, mais j'avoue que j'ai d'abord cru que vous plaisantiez. »
« Qu'est-ce qui se passe ?»
demanda Willis, pour une fois pris au dépourvu. Le vaisseau était à présent agité d'un léger roulis, tout en se déplaçant toujours lentement vers le geyser. À cette distance, une centaine de mètres, il rappelait de plus en plus à Floyd le célèbre jet d'eau de Genève.
« Il ne va tout de même pas nous y faire passer ?»
Mais si. Univers vibra un peu en pénétrant dans la gigantesque gerbe d'écume. Il tanga très légèrement, comme s'il forait un trou dans le geyser géant. Sur les écrans d'observation et par les hublots, on ne voyait qu'une blancheur laiteuse. L'opération ne dura en tout qu'une dizaine de secondes, et puis ils émergèrent de l'autre côté. Sur la passerelle, les officiers applaudirent spontanément, mais les passagers, même Floyd, avaient l'impression d'avoir été victimes d'une mauvaise farce. Avec une grande satisfaction, le capitaine annonça alors
« Maintenant, nous sommes prêts à partir. Nous avons de nouveau un vaisseau bien propre. »
Pendant la demi-heure suivante, plus de 10 000 observateurs amateurs sur la Terre et la Lune rapportèrent que la comète avait doublé d'éclat. Le Comet Watch Network, le réseau de surveillance de la comète, fut submergé d'appels. Ses standards sautèrent et les astronomes professionnels enragèrent. Mais le grand public était ravi, et quelques jours plus tard, Univers fournit un spectacle encore plus sensationnel, quelques heures avant l'aube. Accélérant de plus de 10 000 km/h toutes les heures, le vaisseau était maintenant de l'autre côté de l'orbite de Vénus. Il allait encore se rapprocher du Soleil avant d'effectuer son passage au périhélie, bien plus rapidement que n'importe quel corps céleste naturel, et de se diriger vers Lucifer. Alors qu'il passait entre la Terre et le Soleil, la queue de carbone incandescent de 1000 kilomètres devint aisément visible, comme une étoile de 4e magnitude, dont le mouvement fut visible pendant 1 heure parmi les constellations du matin. Au tout début de sa mission de sauvetage,
univers était suivi par des milliers d'êtres humains.